Dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Pouvoir être maître de ta propre vie et la construire à ta façon, sans vouloir imposer quoi que ce soit à autrui, et que c'était pour ça que j'étais anarchiste. C'est pas le futur qui nous meut, hein, qui nous fait bouger, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain. Voilà, c'est le présent. Concept de révolution, le désir de révolution est fondamental. Tu ne peux pas te satisfaire de la société telle qu'elle est. Désir de révolution, oui. Projet de révolution, c'est une autre question. Ça implique beaucoup d'autres choses.
Dissonance
avec
Thomas Ibanieff
sur Radio Sainte-Afrique.
Dissonance se déplace à Barcelone. Nous sommes accueillis par Thomas Ibanieff et sa compagne. Avec sa voix chaleureuse, Thomas va nous faire vivre 70 ans d'une histoire qui est la sienne, mais aussi celle d'une partie des Espagnols et des Français d'aujourd'hui. De l'Espagne, il en garde les stigmates des réfugiés de l'exil. De la France, il nous raconte sa participation au mouvement de mai 68 et nous fait vivre son implication dans l'émergence d'une pensée anarchiste qu'il veut ouverte. Et aujourd'hui, de cette Catalogne qui fait la une des médias, il nous fait partager ses réflexions sur le pouvoir et la liberté, sur un anarchisme sans dogme et sur les nouvelles formes de lutte.
Aujourd'hui, Thomas Ibanieff, cet aiguillon irrévérencieux de la pensée libertaire, nous parlera de son parcours qui l'a mené de Saragosse à Barcelone en passant par la France.
Dans Dissonance, il sera question de mai 68. Il sera question de Michel Foucault, mais aussi de Catalogne et de ce piège qu'est, pour un esprit libre et libertaire, l'illusion du nationalisme.
Thomas Ibanieff nous invite à partager son désir de faire la révolution dans la révolution, à ne pas attendre le grand soir, mais à le vivre au présent.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Donc dans ta vie, je me suis permis moi de la séquencer en plusieurs parties, je ne sais pas si ce sont les bonnes parties, mais il me semble qu'il y a une partie que les auditeurs aimeraient connaître, c'est ta vie, tes origines, avant d'arriver en France, puisque tu arrives en France en 1947, mais tu es né en 1944, et tu n'es pas né n'importe où. Tu es né dans un chaudron libertaire.
Un chaudron libertaire, oui, puisque Saragosse, qui est la ville où je suis né, a été un des hauts lieux, disons, de l'anarcho-syndicalisme en Espagne et de la Révolution de 36. Sauf que Saragosse, comme c'est bien connu, a tout de suite été aux mains des insurgés fascistes, franquistes, phalangistes, et que donc cela a étouffé le mouvement libertaire à Saragosse. Les milliers de personnes qui ont été exécutées. Ça a été des milliers, effectivement, si bien qu'au moment où je suis né, le mouvement libertaire à Saragosse, ce n'était plus un chaudron, c'était pratiquement un cimetière. Ceci dit, ma famille, en tout cas ma mère, avait été un élément très actif dans toute la période avant 36, Et donc, oui, de ce point de vue-là, on peut dire que je suis né dans un chaudron libertaire.
Et ta maman était une militante engagée, une militante libertaire ?
C'était effectivement une militante très engagée. Elle a participé à des tas d'événements, entre guillemets, historiques, qui ont concerné la ville de Saragosse, dans les années, début des années 30, jusqu'à 36. Elle a fait de la prison en 36, évidemment. Et quand elle a décidé de partir après ma naissance en 47, moi je suis né effectivement en 44, elle a décidé de partir clandestinement en France à travers les Pyrénées, la montagne, en me portant dans ses bras, littéralement. À ce moment-là, disons, elle a cessé pratiquement toute son activité libertaire, militante, politique, qu'elle avait déjà, disons, un peu mis sur le côté à la fin de la guerre. Et même dans les premières années, après 1936, vu que la répression à Saragosse, disons, était terrible. Donc elle avait déjà, pas elle, tout le mouvement libertaire à Saragosse, c'était un petit peu mis, comment on dit, à l'ombre, sur le, en marge.
En sommeil. En sommeil.
Dejamos detrás la tierra de tu madre. Y la tierra de tu madre siempre es otra tierra.
Dissonance
avec
Thomas Ibanieff
sur Radio Sainte-Afrique.
Et donc 1947, tu arrives à Castres, si je ne me trompe pas.
Oui, bon, quelqu'un qui arrive en France sans savoir le français, hein, sans travail, clandestinement, elle doit se mettre en rapport, disons, avec les gens qui étaient à Saragosse et qui étaient passés en France. À la fin de la guerre, elle doit se mettre en rapport avec le milieu exilé espagnol et où, d'ailleurs, il y a une solidarité extraordinaire, c'est-à-dire que l'entraide, disons, entre les exilés, surtout dans le milieu libertaire, est très forte. Et à Castres, donc, elle est recueillie par d'anciens camarades à elle, de Saragosse, et ce sont eux qui lui trouvent du travail, qui s'occupent des papiers, etc.
Et après, tu vas sur Toulouse.
Et oui, alors sur Toulouse, ça doit être à la fin des années 40, hein, 49, 50. Et Toulouse, alors là, c'est l'épicentre, disons, de l'exil libertaire. Bon, ce que je connais à Toulouse, du côté donc familial, c'est effectivement toutes les activités que les libertaires espagnols réfugiés en France organisent dans la ville. Alors des conférences, des fêtes, des sorties champêtres, des meetings. Bon, c'est une atmosphère très conviviale. Si bien que pour moi, être exilé en France, c'est être exilé dans un milieu qui est celui que je connais à travers ma mère, qui est l'exil libertaire. Donc je suis comme poisson dans l'eau parmi les libertaires. Et je n'arrive pas à imaginer, même à l'époque, que les Espagnols en France, ça puisse être autre chose que cet exil libertaire qui est tellement présent dans la région de Toulouse.
Et en 1954, c'est le départ pour Marseille.
Oui. Déplacement à Marseille, effectivement, pour des raisons de travail, enfin de raisons familiales de ma mère. Et à Marseille, c'est à nouveau le milieu libertaire exilé espagnol, disons, qui est le point de chute. Hein, et les relations que ma mère établit, c'est avec les personnes qui composent ce milieu-là. Donc je m'y retrouve à nouveau.
Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre. Nous portons un monde nouveau, là, dans nos cœurs. Et ce monde grandit en cette minute même.
Et tu commences à créer des liens avec des jeunes libertaires à Marseille. Ou avec des moins jeunes aussi, non ?
Oui, alors ça, effectivement, disons qu'avec l'arrière-fond de la guerre d'Espagne, puisque la guerre d'Espagne, la révolution espagnole, c'est ce dont parlent quotidiennement pratiquement tous les gens qui font partie de cet exil libertaire espagnol en France. Avec ça en arrière-fond, ma préoccupation, c'est comment faire, disons, pour que ça ne soit pas seulement un arrière-fond, mais que ça se traduise, disons, en une réalité qui aille au-delà de l'exil libertaire. Et dès qu'on me propose l'initiative, c'est bien, je pense, d'un militant extraordinaire qui s'appelait pseudonyme André Arru, de son vrai nom Jean-René Solière. À l'initiative d'André Arru, il y a une réunion qui nous est proposée, des fils d'exilés, et aussi à des camarades, des jeunes français, faire une réunion pour constituer un groupe de jeunes libertaires. Moi, à l'époque, j'ai 16 ans, je dis, ah, chapeau, ça y est, ouf, quelque chose d'intéressant. Et donc, je suis partant tout de suite. Et là, nous constituons le groupe de jeunes libertaires de Marseille, avec des rapports avec les Espagnols, mais avec comme un horizon immédiat, disons, faire du travail là où on est, c'est-à-dire en France, et par rapport à la population française.
On le verra tout à l'heure, mais tu as une conception très ouverte de l'anarchisme, et je pense qu'André Arru l'avait aussi.
Oui, André Arru était essentiellement individualiste, mais solidaire, d'ailleurs, à partir d'un individualisme profond qui est rattaché, disons, à toute la tradition d'Émile Armand, etc. Donc, un vrai, entre guillemets, individualiste, il a en même temps une conception, disons, de l'action sociale, de la nécessité de s'organiser, de faire des choses en commun. Et partant de cet individualisme, André Arru va, par exemple, être un élément important dans le fait de rendre possible la réorganisation des organisations anarcho-syndicalistes exilées en France. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé socialement, en même temps qu'individualiste, et qui, à partir de ses positions individualistes, a une conception de l'anarchisme qui est assez, je dirais, ouverte, large, non dogmatique.
Et est-ce que cette dimension d'anarchisme ouvert, d'anarchisme sans dogme, apparaît déjà dans un de tes premiers textes que tu as écrit en 1962 et qui s'appelait « Pourquoi j'ai choisi l'anarchie ?» Est-ce que déjà tu parlais de cette dimension-là, non dogmatique, de l'anarchisme ?
Oui, je pense que c'est un texte très, très naïf. Moi, j'y suis attaché par nostalgie, parce que bon, 62...
Tu avais 18 ans.
18 ans, voilà. C'est le premier texte publié. Mais là, j'y affirme, disons, que mon attachement à l'anarchisme se fait surtout sur la base du refus de la domination, de la révolte contre l'autorité et de la nécessité d'une sorte d'esprit critique, non dogmatique, ouvert, en tout cas le refus de l'autorité, de l'obéissance, c'était pouvoir être maître de ta propre vie et la construire à ta façon, sans vouloir imposer quoi que ce soit à autrui, et que c'était pour ça que j'étais anarchiste.
Tu parlais de Paris, tu y vas en 1963, tu montes à la Sorbonne, c'est ça, où tu vas étudier ?
Étudier, effectivement, moi je commence à étudier en Aix-en-Provence, la première année, propédeutique, où je me familiarise déjà, disons, je m'implique même très fortement et directement dans les activités de l'UNEF. Et donc, face à l'UNEF, il y a la FNEF, la Fédération Nationale des Étudiants de France, qui d'un coup reçoit un grand renfort, si bien que bon, c'est une période, une expérience très intéressante de début, pour ma part, de syndicalisme étudiant universitaire, mais vraiment très engagé. Je me souviens des bagarres qu'il y a avec Aix-en-Provence, tout ça. Et d'Aix-en-Provence, effectivement, après le propé, je monte, on disait toujours monter sur Paris, pour m'inscrire à la Sorbonne, en psycho.
Et là, tu continues à rencontrer de nouveaux jeunes libertaires parisiens ?
La FIJL organisait chaque été...
La Fédération Ibérique des Jeunesses.
La Fédération Ibérique FIJL de Jeunesse Libertaire organisait chaque année des campings, on les appelait des concentrations. Les campings libertaires qui duraient un mois ou un mois et demi dans diverses régions de France, où se retrouvaient des jeunes, donc essentiellement des jeunes espagnols, effectivement, de toute la France, mais aussi des jeunes venus d'Angleterre, venus de quels étaient les pays d'Italie. Par exemple, Pinelli, un anarchiste qui connaîtra un triste sort en 69, quand les flics italiens le jetteront du haut d'une fenêtre de la préfecture, enfin, ou du commissariat italien. Dans la rue, Pinelli est un de ceux qui viennent à ces concentrations. Ces concentrations auxquelles je commence à participer à partir de 1961, qui sont annuelles, permettent d'établir des rapports avec beaucoup de militants qui ne sont pas des militants de Marseille et du petit noyau qui sont là-bas. Et donc, quand j'arrive à Paris, c'est déjà tout un tissu de relations qui sont établies. Moi, je rentre dans le groupe JL de Paris, ce qui est tout à fait naturel, vu que je viens du groupe JL de Marseille.
JL, donc, c'est Jeunes Libertaires.
Jeunes Libertaires. Mais je me précipite aussi au sein de la Fédération Anarchiste pour rentrer dans un groupe de la Fédération Anarchiste, qui est le groupe des liaisons internationales, où il y a Marc Prévotel, enfin des gens comme ça. Et à l'université, alors c'est une anecdote, mais enfin, que j'aime bien, quand j'arrive à la Sorbonne, alors c'est septembre 63, je commence à m'intéresser qu'est-ce qui se passe à la Sorbonne, et on me dit, bon, ben, il y a une association d'étudiantes, là, au deuxième étage, dans les trucs de psycho, moi je suis justement de psycho, je monte, je regarde, je vois CLER, Comité de Liaison des Étudiants Révolutionnaires. Je dis, chic, chic. Alors je me présente, et je dis, bon, ben, moi je suis révolutionnaire aussi, donc ça m'intéresse, donc je veux... Alors on commence à en parler un petit peu. Celui qui est présent... C'est Claude Chisseret. Et Chisseret, avec qui ensuite on sera très, très copains, mais part d'un grand éclat de rire quand je dis « je suis révolutionnaire, je suis anarchiste ». « Ah, bon, il y en a un autre à la Sorbonne. Vous êtes deux, on va te le présenter ». Bon, ça retrace un peu, disons, l'état du mouvement anarchiste universitaire. Il y en a d'autres, des anarchistes, mais enfin qu'ils soient un peu, qu'ils se bougent et qu'ils soient un peu connus. En tout cas, à la Sorbonne, il y avait guère que ça. Et là, on crée avec Richard Lamiral, qui est l'autre anarchiste de la Sorbonne, on crée tout de suite la liaison des étudiants anarchistes, qui commence à fonctionner en octobre 63, qui ne sera composé pendant pas mal de temps que de 4-5 copains, hein, on fait quelques actions, enfin, et qui après s'étendra, il y a des jeunes étudiants de Nanterre qui viennent en 65-64 de s'ouvrir, l'université de Nanterre, qui viendront à l'Aléa, il y a Dany aussi, comme Bendit, bon, ça fructifiera, disons, et ça jouera un certain rôle dans la création du mouvement du 22 mars à Nanterre, et donc l'Aléa est un des éléments importants du 22 mars, et donc les débuts de mai 68.
Donc cette liaison anarchiste où vous avez commencé à deux, puis après à cinq, puis après un petit peu de monde, a été un des éléments qui ont été les germes de ce mouvement de mai 68.
Oui, on ne peut pas tracer une causalité directe, évidemment. Hein, parce que, très probablement, disons, mai 68 se serait développé, aurait eu lieu aussi, même si ça, ça n'avait pas existé. Quel est le poids que cela a eu comme un des multiples facteurs qui sont intervenus? Bon, c'est très difficile à établir. Mais oui, il y a quand même une certaine filiation.
Dissonance
avec
Thomas Ibáñez. Dans ces années-là aussi, tu as eu comme souci de pas d'unifier, mais au moins de faire un espèce de front commun de tous ces libertaires qui se trouvaient sur Paris, qui étaient des fois à la Fédération anarchiste ou au mouvement des jeunes ibériques, etc. Alors pour l'anecdote aussi, parce que même si je sais que tu veux pas te l'attribuer, mais tu as fait partie, on va dire, du groupe qui a essayé d'imaginer un symbole qui pourrait rassembler et résumer cette théorie du front commun.
Et effectivement, quand j'arrive en septembre à Paris, je me trouve avec quoi ? Je savais déjà un peu que c'était comme ça, mais avec des tas de chapelles. Voilà. L'AFA, l'UGAC, les JL, très morcelés. Comment essayer de surmonter cette fragmentation? La première chose que je fais, c'est convaincre le groupe JL de Paris qu'il faut s'élargir et que donc, moi j'ai une idée, c'est créer le comité de liaison des jeunes anarchistes, le CLJA. Le CLJA où on invitera tous les jeunes qui sont dans les divers groupes. Le CLJA est lancé et ça sera un succès énorme. C'est-à-dire que première réunion qu'on réalise, c'est à la fin 63, il y a 40 ou 50 jeunes qui sont présents. Et l'idée est bien d'arriver, non pas à créer une organisation, on ne veut pas être une nouvelle organisation, tout le contraire, on veut être une liaison entre des gens qui sont l'organisation qui leur plaisent le plus, où ils se trouvent par hasard ou par leur relation, etc. Donc, mais une liaison entre tous ces gens-là, tous ces copains. Et c'est la fonction du CLJA, qui refusera toujours de se transformer en organisation. Et c'est dans ce même esprit qu'au groupe JL de Paris, j'ai dit, bon, si on pouvait trouver quelque chose qui soit facile d'écrire, de dessiner sur les murs, dans les tracts, etc., qui n'appartiennent à personne dans le milieu anarchiste, et que tous les groupes anarchistes puissent utiliser, ça multiplierait, disons, l'impact, la présence de l'anarchisme, parce que si tu vois une affiche signée UGAC, puis tu en vois une autre signée FA, puis une inscription signée JL, les gens ne font pas, n'établissent pas nécessairement un rapport entre tout ça. Si tout ça avait un même logo, et l'idée est acceptée, un brainstorming, un symbole, on trouve le A cerclé comme le symbole le plus. C'est un copain qui le dessine sur stencil, c'est René Darras, qui est décédé depuis longtemps, mais qui dessinait très très bien, et on lance la proposition à l'ensemble du mouvement dans un numéro de notre bulletin Jeunes Libertaires en avril 64, le numéro 40, il me semble que c'était, du Jeunes Libertaires propose le A cerclé comme symbole qui pourrait unifier l'ensemble des manifestations anarchistes publiques. La réception, disons, de cette proposition n'est pas très enthousiaste dans l'ensemble du mouvement. Il est repris par quelques groupes, mais ça pourrait presque rester dans un tiroir. En mai 68, on voit très peu de A cerclés. On voit des drapeaux noirs. Il y a quelques A cerclés, effectivement, qui apparaissent, mais pas grand-chose. La diffusion, la grande diffusion du A cerclé sera post-68. Ça sera surtout à travers le relais des Italiens, des copains italiens, qui vont beaucoup l'utiliser. Le groupe de jeunes libertaires de Milan, qui va beaucoup l'utiliser. Et bon, il y aura des rencontres internationales, tout ça. Et peu à peu, l'EA, disons, va diffuser dans le milieu libertaire international et devenir un symbole. Si bien que quelques années après, pour beaucoup de gens, l'EA, c'est avec l'anarchisme depuis le début. Enfin, c'est Proudhon qui a inventé l'EA cerclé.
Voilà, donc
c'est un truc de 64.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Quatre ans après arrive mai 68, où tu as été, avec beaucoup d'autres, un des éléments moteurs. Est-ce que tu dirais que c'était une révolution, sachant que tu avais écrit aussi en 64 un texte où tu disais « La révolution de papa était morte ».
Oui, eh bien, c'est justement en accord avec ce texte-là. Je dirais que c'est une révolution, mais une révolution de la révolution, dans la révolution. C'est-à-dire, ça change les paramètres de ce qu'on pouvait considérer jusqu'en 68 comme l'archétype de la révolution. Cet archétype, la révolution telle qu'elle était présente dans l'imaginaire anarchiste et autres révolutionnaires, cette révolution-là est effectivement morte. Et c'est un nouveau concept de révolution qui émerge et qui s'élabore. Et donc c'est une révolution dans la révolution. En ce sens, mai 68 est une révolution. Dans le sens de prise de pouvoir, évidemment, non. Tous les schémas anciens, disons, de rupture radicale de la société, non plus. Donc l'imaginaire de 1789, amélioré par 1917, ou réactualisé par 1917, c'est plus ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'idée de révolution, même si le déplacement de l'ancien imaginaire par le nouveau est progressif, n'est pas immédiat, ça prend du temps, l'imaginaire actuel de la révolution va plutôt dans le sens qui a émergé, qui a commencé à se former à partir de mai 68. Les gens qui se bougent à ce moment-là, et l'esprit de mai 68, c'est bien de mettre en question, l'instituer sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan éducatif, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de la vie. Mettre en question tout cela, déstabiliser tout cela, y compris le capitalisme, évidemment. C'est créer des structures qui permettent, disons, de sortir du capitalisme. Tout ça est présent en mai 68, même si ça ne va pas se traduire effectivement dans une vraie sortie du capitalisme, etc. Mais ce qui se construit en mai 68, c'est ce genre d'aspiration. Il y a un truc qui est évident, c'est que le détonateur, disons, le monde étudiant. C'est la révolte, entre guillemets, la révolte étudiante, c'est les événements de Nanterre, c'est ensuite le transfert des événements de Nanterre, disons, à la Sorbonne le 3 mai. Ça, c'est le détonant. C'est le début de mai 68. Et disons que pendant, en gros, la première semaine de 68, le fer de lance, disons, de cet événement, de cette explosion, ce sont les étudiants, incontestablement. Même si le 10 mai, il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui sont rue Gay-Lussac et qui sont sur les barricades et qui montent des barricades. Mais c'est le monde étudiant. Ceci dit, deux choses. Une, c'est que ce qui va imprimer son caractère, sa singularité, à mai 68, ce n'est pas ce qui se passera ensuite dans le monde ouvrier. Ce n'est pas non plus ce qui se passe dans le strict cadre étudiant. C'est à partir du moment où les étudiants qui amorcent mai 68 abandonnent, disons, l'esprit étudiant, c'est-à-dire de se centrer, comme cela a été le cas quelques mois auparavant même, se centrer sur les problèmes étudiants pour passer, oublier les problèmes étudiants et passer à autre chose, questionner l'autorité, questionner... C'est à partir de ce moment-là que se dessine ce qui fera la singularité et l'esprit de mai 68. Donc ce n'est ni étudiant, même si les étudiants enclenchent le processus, ni ouvrier. Et je dirais que mai 68 serait resté un épisode quasi anodin, c'est-à-dire ça n'aurait pas pris, ça n'aurait pas eu d'effet, même des effets à long terme, dans la société, pas seulement dans la société française, si c'était resté cantonné aux révoltes du quartier latin, au milieu étudiant, même si après il y avait des prolongements à Lyon ou à Toulouse ou à Bordeaux. Ce serait resté une anecdote. Ce qui a la transformé, disons, en un événement d'une dimension colossale, c'est effectivement le fait que le monde du travail, ou une bonne partie du monde du travail, disons, se soit mis, disons, à occuper les usines, même si sur l'occupation des usines, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais à occuper les usines, à séquestrer les directions des usines, et s'il n'y avait pas eu cette énorme grève générale, disons, qui a failli mettre le gouvernement gaulliste sur les genoux. C'est ça qui a donné de l'épaisseur, disons, historique à mai 68, qui l'a transformé en un événement qui est inscrit dans l'histoire, etc. Mais les effets qu'a eu mai 68 ne sont pas liés à ça. Les effets qu'a eu mai 68 à long terme et la singularité de mai 68, ce ne sont pas l'entrée en jeu du monde du travail, c'est le genre de la nouvelle contestation qui s'est installée dans des secteurs de la société par rapport au système établi, par rapport à l'institué. C'est ça qui est l'originalité de mai. Cette originalité serait restée cantonnée, cloisonnée à un truc anecdotique si ce n'avait pas été, parce que l'entrée en jeu du monde ouvrier a donné à l'événement une projection, disons, sans commune mesure. Donc, sans le mouvement ouvrier en 68, il ne serait pas passé grand-chose. Le mouvement ouvrier en 68 n'est pas responsable de ce qui s'est passé.
Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de penser, vous jeunes étudiants qui étiez là au mois de mai, et si jamais De Gaulle abdiquait, et si on se retrouvait avec une situation où vous ne vouliez pas le pouvoir, mais si vous vous retrouvez dans un endroit où vous avez l'occasion de le prendre?
Quand je dis que c'était une révolution dans la révolution, c'est précisément parce que ce genre de problème ne se posait pas. C'est sûr qu'il y avait des petits collectifs, disons, qui certainement se chauffaient beaucoup la tête autour de possibilités de ce genre et comment le faire. Mais globalement, ça ne se posait pas, parce que justement, ce qui faisait que les gens se lancent dans la rue, participent, innovent, discutent les uns avec les autres, créent des comités d'action, etc., c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'éventualité, disons, d'une... de rediriger la société française, disons, à partir d'instances de pouvoir. C'était... Bon, on y pensait, enfin, en tout cas moi, dans le milieu où je bougeais, on n'y pensait absolument pas, c'était pas ça. Ce qui était important, c'était au jour, le lendemain, et quoi construire, disons, qui effectivement casse avec le système, c'est-à-dire la révolution dans l'immédiat, dans le présent. Comment déstabiliser les choses et comment construire des alternatives, disons, qui permettent non pas d'arriver à une société différente, etc., etc., mais d'avancer dans une direction qui serait celle d'une société différente, d'avancer simplement, pas de la réaliser.
C'est une notion importante, ça. Hein. Avancer, mais pas forcément penser à la réaliser.
Je pense que mai 68 actualisait, disons, et alors en me référant au champ strictement anarchiste, mai 68, c'est beaucoup plus vaste, mais ça actualisait une phrase, une pensée de Landauer, hein, lorsqu'il disait « L'anarchisme n'est pas une question de futur, mais du présent. Hein. » Et si tu enlèves le mot anarchisme, hein, mai 68, c'était ça. C'est pas le futur qui nous meut, hein, qui nous fait bouger. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain. Voilà, c'est le présent.
Hein. Ce que tu appelles l'agir. Et justement, à un moment, en 68, on t'empêche d'agir puisque tu es arrêté à Flins. Comme tu es un jeune étranger, tu es assigné à résidence en Corrèze, si je ne me trompe pas, pendant 6 mois. Et en 1973, tu reviens en Espagne.
Que tu as la maison douce, giroflée, girofla, l'herbe y croît, les fleurs y poussent, le printemps est là. Dans la nuit qui devient rousse, giroflée, girofla. L'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Tu as de beaux champs d'orge, giroflée, girofla, ton grenier de fruits regorge, l'abondance est là. Entends-tu souffler la forge, giroflée, girofla? Canon les fauchera, le canon les fauchera. Tu as de belles filles, giroflées, girofla, dans leurs yeux où la joie brille, l'amour descendra. Dans la plaine on se fusille, giroflées, girofla. Soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, giroflées, girofla, ça fait plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours, on va te les prendre, giroflée, girofla. Corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, il ne pourra y avoir sur terre pas grand-chose de bien. On tuera pour te faire taire par derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien.
Donc, moi, quand je reviens en Espagne, en 73, à la mi-73, mon intention était de me tenir le plus tranquille possible. Bon, moi, j'avais déjà été, sous prétexte de mai 68, arrêté en Espagne, etc., donc... trouver du travail, m'installer, et le moins de contact possible avec... Ça commençait à bouger déjà, hein, dans le milieu libertaire. Bon, il y aura, disons, l'exécution de Puigdemont, il y a le MIL, donc ça bouge, mais moi je me tiens tranquille. Quelques contacts avec des gens que je connais, mais c'est tout. Et je ne vais vraiment m'impliquer... Si, à l'université, je participe... Puisque je commence à travailler tout de suite à l'Université Autonome de Barcelone, je m'implique tout de suite dans le mouvement contestataire des profs. Bon, alors là, oui, à fond. Mais ce n'est pas le mouvement anarchiste. Hein, là, oui, mais dans le cadre libertaire, non. Je vais m'y impliquer à la mort de Franco. Hein,
en 75.
En 75. Alors là, oui, là, à fond. Et ça va être une période extraordinaire, hein, un peu comme mai 68.
Et donc de 76 à 79, tu parles d'une grande effervescence libertaire en Espagne. Tu vas être de ceux qui vont œuvrer au renouveau de la CNT, la Confédération Nationale du Travail.
Oui, moi je vais apporter mon petit grain de sable, disons... à la reconstruction de la CNT et du mouvement libertaire en Espagne, mais comme militant de base, hein, pas plus dans mon syndicat, le syndicat d'enseignement, et bon, en participant à tous les événements qui ont lieu à ce moment-là. Mais le mouvement libertaire qui jaillit comme un... c'était inattendu, parce que 2 ans avant, les libertaires, il fallait les chercher à la loupe. Hein. Et tout d'un coup, il va y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent grossir les rangs de la CNT. Là, je me mets à fond. Et ce que je fais, c'est effectivement essayer de tisser des relations avec tous les secteurs. Le mouvement va s'effondrer, va éclater, va finir pratiquement en 79. Notamment à cause des affrontements internes. Hein. Et moi, je suis bien avec tous les secteurs et essayer de tisser des...
Ah, c'est une constante dans ta pratique.
Oui, c'est œcuménique. Moi, je quitte la CNT et tout le syndicat d'enseignement de Barcelone quitte en bloc la CNT. Il en reste peut-être une dizaine sur les 100 et quelques qui sont au syndicat. On part. Et avec l'intention de reconstruire autre chose, mais finalement on reconstruit rien, et donc on se disperse un peu. Et moi je fais partie des gens qui se dispersent. Et dans cette dispersion, bon, je vais faire surtout du travail universitaire, essayer de faire passer Foucault chez les étudiants, de l'esprit critique, mettre beaucoup de philo dans la psycho, et beaucoup d'épistémologie dans la soi-disante raison scientifique, etc. Et l'autre activité parallèle à celle-là, ça va être produire dans des textes et des idées, essayer d'élaborer quelque chose dans le champ libertaire. Et c'est là qu'on va lancer une revue qui aura une certaine importance en Espagne, qui est Archipiélago. Et puis ensuite, alors, je reviens, disons, dans le milieu militant. Fin des années 90, je demande à m'affilier à la CGT, anarcho-syndicaliste, qui est le syndicat qui a grossi en Espagne, et à la CNT. Les deux m'acceptent, mais dans des conditions différentes. Alors je dis, je reste à la CGT, et puis voilà.
No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Vive hoy!
On abandonne et on renonce. On s'enlise et on s'enfonce. On s'enivre, on se défonce. Plus personne ne s'étonne, on se retrouve sans défense. On se jalouse et on s'envie. Vois à quoi désormais se résument nos vies. Du pain, des jeux et des grosses bagnoles. On se tire vers le bas quand nos idéaux s'envolent. De nos lâchetés, les rancœurs font leur lit. La parole est d'argent et les langues se délient. Prima la délation, celui qui balance. Celui qui consomme, consume son existence. Je suis pas sûr de vouloir faire comme tout le monde. Pas sûr de pouvoir m'accommoder les mauvaises ondes. La tête dans un bocal, le cerveau qui explose. C'est quand qu'on passe à autre chose.
Dis-moi c'est pour quand le réveil.
Donc on arrive à une partie qui me semble intéressante de l'entretien, c'est toutes tes réflexions sur l'anarchisme contemporain. Alors notamment avec la découverte pour moi de Michel Foucault et de son œuvre à travers ce que toi tu as écrit.
Le lien entre Foucault et l'anarchisme, à moi, me semble évident, dans la mesure où, quand même, une des singularités de l'anarchisme, c'est de contredire la logique de la domination, et donc de s'affirmer comme pensée critique du pouvoir et lutte pratique contre le pouvoir sous toutes ses formes, et dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Donc l'anarchisme est forcément anticapitaliste et anti n'importe quel type d'exploitation économique, évidemment. Donc dans la mesure où ça, c'est une des singularités de l'anarchisme, cette volonté de contredire la logique de la domination, et dans la mesure où, non pas le seul thème, mais un des thèmes, des épines dorsales de la pensée de Foucault, c'est la réflexion, l'analyse, la déconstruction, un terme qui n'est pas à la mode, une déconstruction du pouvoir, des pratiques, disons, qui permettent que le pouvoir, disons, s'installe et nous construise. Donc, si l'anarchisme de son côté, Foucault de l'autre, ont le pouvoir comme un de leurs centres d'intérêt, leur rapport est comme tous les deux. Ce n'est pas avoir le pouvoir comme centre d'intérêt, mais contre le pouvoir comme centre d'intérêt, la liaison entre les deux éléments est évidente. Ceci dit, Foucault apporte à la conceptualisation du pouvoir, la compréhension des phénomènes de pouvoir et de la domination, et du coup de la liberté, parce que si le pouvoir intéresse, c'est bien parce que, d'une certaine façon, il y a une volonté d'œuvrer, disons, à l'élargissement autant que possible des pratiques de liberté. Mais l'anarchisme et Foucault, oui, bien sûr, s'intéressent au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté d'essayer de promouvoir des pratiques de liberté. L'apport de Foucault à la compréhension des phénomènes de pouvoir est notablement plus intéressante et plus sophistiquée que ce que l'anarchisme avait pu élaborer par rapport à ce phénomène, à ce sujet. Et l'anarchisme aurait tout intérêt, c'est un peu ma position, à reprendre les conceptualisations, les analyses, les outils que Foucault a élaborés pour enrichir la perspective anarchiste sur le pouvoir, sur la domination et aussi sur la liberté.
Et ensuite arrive dans les années 90 toute une nouvelles formes de lutte, le Chiapas, l'altermondialisme, etc. Tout un tas de mouvements de ce style-là. Et toi déjà, tu avais écrit, et je ne sais plus en quelle époque, là, tu avais parlé d'une nouvelle façon de lutter qui allait arriver avec des espaces de rencontre, de créativité. Tu avais anticipé ?
Je ne sais pas si j'avais anticipé ou s'il y avait déjà des éléments qui permettaient à l'époque de saisir ça. Si, je pense qu'il y avait des éléments parce que je ne sais pas quel...
Tu l'as écrit en 2008.
Oui, à ce moment-là, il y avait quand même déjà, à part le Chiapas, et avant la place Taksim en Turquie, qui a été un autre épisode, il y avait quand même, depuis la fin des années 90... tout le mouvement altermondialiste, c'est-à-dire il y avait eu Sittel en 1999, il y a ensuite, dans les premières années de 2000, tous les grands rassemblements et les luttes contre les sommets Davos. Ensuite il y aura Gênes. Et il y a déjà dans tous ces mouvements-là, ce qui après, bon, ce que j'imagine, je théorisais un peu en 2008, oui, mais c'est avant les occupations des places de 2011 et tout ça, évidemment. Mais c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si j'innove pas. Enfin, j'essaie d'analyser ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer à ce moment-là, c'est qu'il se crée hors du mouvement qui s'autodéfinit comme anarchiste, une série de luttes, une série de pratiques qui reprennent ou réinventent des présupposés et des modes d'organisation et des éléments, disons, qui étaient présents dans les pratiques anarchistes et dans la théorisation anarchiste. Horizontalité,
anti-hiérarchie,
méfiance par rapport à la délégation, à la représentation, suspicion par rapport à tout ce qui a l'air de vouloir être des rapports de pouvoir ou qui permet de les instaurer d'une certaine façon, même si c'est de façon solapade, en sous-main. Tout ça est en train de prendre corps. Fin des années 90, début des années 2000.
Perder una batalla luchando no debe jamás afectar a un revolucionario, porque un revolucionario debe saber que el arma con la que cuenta es siempre la lucha por la causa en la cual cree. Para un revolucionario, la acción constante es el motor social de la historia. Y es por eso que el simple hecho de empezar un combate es ya una victoria.
Voilà, et en 2008, donc, tu écrivais « Subvertir les fonctionnements habituels et les usages établis, occuper des espaces, transformer les lieux de passage en lieux de rencontre et de parole, tout cela déclenche une créativité collective qui invente immédiatement de nouveaux moyens d'étendre cette subversion et de la faire proliférer. » Et 3 ans après, en Espagne arrive le mouvement du 15M. Tu peux nous en parler ?
Le mouvement du 15M, c'était, comme mai 68 d'ailleurs, une surprise. Parce que personne ne s'attendait, la veille, à ce que ça prenne. Hein. Des manifestations, des protestations, des revendications, il y en avait, puis depuis un bon moment. Mais que tout d'un coup, il y a un phénomène comme le 15e qui prenne et qui développe quelque chose qui va au-delà de ce qu'étaient les revendications concrètes. Des manifestations et des revendications antérieures, c'est quelque chose qui était inattendu. Et effectivement, dans presque toute l'Espagne, tu as ce phénomène des occupations de places. Occupations des places qui sont surprenantes, en ce sens que, comme en mai 68, ça met en relief la capacité d'auto-organisation des gens. Quand les gens se trouvent rassemblés, qu'ils ont des choses concrètes à mettre en place, leur capacité, ça s'est produit aussi dans les places en Égypte, etc. Leur capacité d'inventivité, d'habileté organisationnelle, technique, de comment se procurer ce qu'il faut, des marmites pour faire la soupe collective, des radios, des tentes, comment tout ça s'organise alors que personne ne dirige. C'est fabuleux, c'est ce qui a lieu dans les places à partir du 15e. Le plus important dans les places, ce n'était pas tellement les discours, mais il y avait quelque chose de par-dessous de cette prise de parole de beaucoup plus important qui était les pratiques. Les pratiques que les gens mettaient en place pour tout organiser, pour balayer, pour qu'il n'y ait pas de la salité qui s'accumule, pour s'il pleuvait, trouver la moyen de protéger les trucs, pour créer, il n'y avait pas de la sérigraphie comme en mai, mais enfin, les affiches, les banderoles, toutes ces pratiques, disons, comment s'organiser, entre nous, sans personne qui nous chapeaute, ça c'est un élément très important, qui est aussi important, moi je dirais peut-être plus même, que les discours, que les colloques, que les réunions pour discuter du problème de l'autodétermination, ou d'autres thèmes, où c'est des discours, et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord, très important, mais les pratiques, c'est ça qui a donné vie.
Et comment tu expliques alors qu'avec cette richesse, le mouvement du 15e dégénère ou se transforme en Podemos ?
C'est quand la révolution, dans la révolution, s'achève, finit, n'atteint pas, disons, atteint ses limites, c'est la révolution qui reprend le dessus. Et reprendre le dessus, ça veut dire pour la révolution, soit conquérir le pouvoir, soit, dans le cas du 15e, trouver une voie soi-disant efficace, pour que tout cela ne s'achève pas dans des phénomènes qui sont épisodiques, comme les occupations de place, et qui peuvent déstabiliser une société, d'ailleurs. Mais enfin, et que cela est une continuité, et que sur des critères d'efficacité, cela serve au moins pour changer quelques aspects de la vie collective, plus de possibilités de travail pour les jeunes, ou plus de... Et donc, ça s'embranche, disons, dans agir hors des institutions, c'est le mot d'ordre de Podemos au départ, mais aussi dans les institutions, conquérir les institutions. Si on veut être efficace, il faut qu'on occupe institutionnellement les mairies, le Parlement, le gouvernement. Bon, Mais ce n'est pas étonnant. Il y a ce désir d'efficacité d'une part, mais il y a aussi le fait que les leaders de Podemos proviennent essentiellement de l'université. Et c'est des gens qui, dans cette voie de conquête du pouvoir, institutionnalisation, ont été très, très influencés par les théories de Ernesto Laclau, théorisation du populisme de gauche. Mmh. Et ça, c'est ce qui inspire les dirigeants de Podemos. Podemos a mis fin, disons, à ce qui était l'esprit du 15e. Et la ligne adoptée par Podemos est en train de mettre fin à Podemos. Lui-même qui, finalement, va se trouver réduite à être une formation parlementariste, parlementaire, qui descendra, ça c'est un pronostic, mais qui descendra au niveau ou au-dessous de la représentativité parlementaire qu'avait le PC espagnol, qui était très basse. Ils ont pris une voie qui va en finir aussi avec leur propre instrument.
Dissonance
avec
Tomás Ibáñez.
Je ne voudrais pas te quitter, cher Tomás, sans te demander si tu voulais bien nous évoquer le fameux épineux problème catalan.
On peut comprendre, et moi je comprends très facilement, que les libertaires, que ce soit en Catalogne ou ailleurs, soient mus par deux considérations, disons, qui peuvent être parallèles. Une, être présent là où il y a des luttes, être parmi les gens qui luttent, qui se mobilisent, ne pas rester en dehors. Or, en ce moment, en Catalogne, depuis quelques mois surtout, il y a effectivement une partie de la population qui se mobilise sur la question de la proclamation de la République, de l'indépendance, etc. Donc, être avec ces gens-là, et par exemple, bon, les anars sont contre les référendums, etc., mais aller défendre les urnes. Donc, je peux comprendre la motivation qui est être avec les gens qui luttent. Je peux comprendre aussi la motivation qui consiste à dire le droit de décider, c'est quelque chose qui est consubstantiel avec les anars, bien sûr, qu'on réclame le droit de décider sur nos vies, de décider sur tout ce qui soit décidable, que personne ne décide à notre place. Donc, il y a un collectif, appelons ça un peuple ou une nation, peu importe, qui réclame le droit de décider, on ne peut qu'appuyer. Ces deux choses, je les comprends. Là où je comprends moins, c'est l'absence de capacité d'analyse qui fait que tu ne réfléchis pas aussi en termes de contenu, de qu'est-ce que tu es en train d'appuyer, pourquoi les gens sont-ils en train de lutter, et le seul fait qu'ils luttent, est-il un argument suffisant ou pas? Donc, d'un côté, le droit de décider, le droit de décider quoi? En ce moment, en Catalogne, le droit de décider si la Catalogne va être indépendante. Tout le nerf de cette mobilisation, c'est quand même sur un thème, non seulement de constituer un nouvel État, mais de vigoriser toute cette revendication à partir des sentiments d'appartenance nationale d'un secteur de la population catalane. Donc, aviver, exciter le sentiment nationaliste. Avec le danger du correspondant qui est que, en contrepartie, tu vas aussi provoquer un ressurgir nationaliste, aviver aussi le sentiment nationaliste en face du nationalisme dominant sur le territoire qualifié d'espagnol, enfin, en Espagne. Donc, que tu dises droit de décider, mais décider quoi? Alors, les anarches qui te disent, non, on n'est pas nationaliste. On est simplement pour le droit de décider. On est pour l'autodétermination, mais l'autodétermination de quoi? Finalement, c'est d'une nation. Donc, tu n'es pas nationaliste, mais tu appuies l'idée qu'il y a une nation, et que cette nation, elle doit pouvoir décider, être indépendante, etc. Donc tu assumes les présupposés, disons, qui sont à la base du nationalisme. On a le droit d'eux parce qu'on est une nation. Pas parce qu'on est un collectif, pas parce que... Bon, parce qu'on est une nation, alors définis-moi ce qu'est une nation. Tu rentres dans un truc. Là, je ne comprends plus, disons, que des libertaires s'embranchent dans ce truc-là. Je le comprends d'autant moins que tout ça est orchestré, hein, en bonne partie, depuis l'équivalent d'un État. Hein, c'est-à-dire le gouvernement catalan et toutes les instances économiques, etc., qui appuient ce gouvernement catalan. Alors, c'est donc articulé, disons, et ça monte en puissance à travers, disons, des instances de type gouvernemental. Alors, toi, anarchiste, tu pourrais être au moins un petit peu circonspect, hein, sur le fait de si ce droit à décider là, c'est ce que tu vas appuyer. Ensuite, être avec les gens. Être avec les gens, oui, mais pourquoi ? Pour protéger des urnes. Moi, je veux bien protester contre la répression, hein, mais pas aider à protéger des urnes, et pas dire, quand tu vois tous les trucs, votre liberté est dans votre vote. Hein, et quand ensuite, les libertaires s'engagent dans les comités de défense du référendum, qui se transforme en comité de défense de la République. Je ne sais pas, moi, la République, j'ai rien contre, je m'en fous, monarchie, république, mais puisqu'on pourrait en revenir au début, les anarcho-syndicalistes du type de mes parents, par exemple, ne luttaient pas pour la République, ils luttaient pour autre chose, et c'est la République qui les a, en bonne partie, disons, qui leur a empêché, mais qui les a réprimés. Alors, la République en soi, non, pour moi, c'est pas une valeur. Tu me dis monarchie ou République, oui, bah, je préférerais certainement République à monarchie, parce que ça fait un pantin de moins. Mais je vais pas me battre pour la République. Ça, je laisse ça aux républicains.
Toi, tu dis que préserver, et on va finir là-dessus, préserver l'ancien imaginaire ne rend pas service à la révolution. Il faut le bousculer pour qu'il assume tous les risques d'une plongée dans l'époque actuelle.
Oui, ce n'est pas tellement congédier le concept de révolution dont il s'agit, c'est de le resignifier, c'est-à-dire construire un nouveau concept de révolution. Le désir de révolution, il doit être... il est consubstantiel, disons, non seulement avec l'anarchisme, mais avec tous ceux qui veulent changer le monde. Hein. Concept de révolution, le désir de révolution est fondamental. Tu ne peux pas te satisfaire de la société telle qu'elle est. Hein. Désir de révolution, oui. Projet de révolution, c'est une autre question. Ça implique beaucoup d'autres choses. Et en tout cas, ne pas congédier le concept de révolution, mais le reformuler, lui donner un autre contenu qui l'éloigne effectivement du concept présent dans l'imaginaire hérité.
Muchas gracias, Thomas.
Pues de nada, José.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance.
Vous y trouverez de nombreux liens sur Thomas Ibanez et notamment, y découvrirez la richesse de ses écrits et de ses diverses publications.
La dernière en date est son livre « Nouveaux fragments épars pour un anarchisme sans dogme », publié rue des Cascades en avril 2017.
Vous y trouverez aussi sur notre site les références des musiques et chansons entendues.
Cette émission sera rediffusée mercredi 28 février à 14h et samedi 3 mars à 16h. Salut
et fraternité. Love.
Salut.
Et fraternité.